Point fixe, ma guerre d'Algérie.
Daniel Simon, dialogue avec Marie-Hélène Dupuy. Ce que l'on appelle aujourd'hui en France « guerre d'Algérie », la reconnaissance de ce terme ne date que de 1999, mais que l'on a longtemps simplement appelé « les événements d'Algérie », pour en nier le caractère guerrier, et que les Algériens appellent « guerre de libération nationale », s'est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie, alors colonie française depuis 1830. Cette guerre s'est achevée le 3 juillet 1962 avec la reconnaissance de l'indépendance du territoire. De 1954 à 1962, un nombre croissant d'appelés du contingent fut envoyé en Algérie pour des opérations dites de maintien de l'ordre ou de pacification. Pendant cette période, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés qui participeront à ces opérations et viendront s'ajouter à 407 000 militaires d'actifs. Il faut noter que parmi ces appelés, 12 000 ont été déclarés réfractaires, dont 10 831 insoumis, ce sont des appelés qui ne se sont pas présentés lors de leur appel, 886 déserteurs et 420 objecteurs de conscience. Enfin, la durée du service, qui était de 18 mois jusqu'en 1957, est ensuite passée à 30 mois. Parmi ces nombreux appelés, Daniel Simon, né en 1941 et qui fut appelé sous les drapeaux, comme on disait à l'époque, le 15 mai 1961, à l'âge de 20 ans. Daniel, qui a accepté de raconter sa guerre et avec qui je vais dialoguer tout au long de ses chroniques. Bonjour Daniel. On se retrouve pour cette cinquième séquence de Point fixe.
Bonjour Marie-Hélène.
Voilà, l'émission que nous faisons ensemble, un dialogue autour de ton expérience en tant qu'appelé pendant la guerre d'Algérie entre 1961-1962, donc plutôt à la fin de la guerre d'Algérie. Donc tu as été incorporé en tant qu'infirmier et donc rapidement après tes classes et puis après avoir fait ton école d'infirmier à Alger, tu es parti en décembre 61 du côté de Djelfa, à Djelfa même, sur un terrain opérationnel et tu nous as expliqué dans les séquences précédentes ce que tu as fait pendant toute cette période, donc notamment l'aide médicale aux populations civiles, donc des villages alentour, également bien entendu soigner les blessés des combats, les blessés également par les mines. Tu nous as expliqué qu'il y avait des blessés que vous soignez sur place et puis les blessés plus graves que tu rapatriais sur Alger. Et donc, tu as également parlé du fait que tu avais une petite équipe avec un médecin, un interprète et toi-même. Donc, parmi ces blessés, il y avait également des félagas. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il se passait avec les blessés donc, algériens ?
Voilà, alors ces chefs félagas qui étaient pris... Souvent, c'était la Légion étrangère qui s'en occupait pour les torturer. Et donc, on me les amenait à la base aérienne, là, au détachement. Et puis là, on me faisait mettre un papier, un petit carton avec une ficelle, comme quoi le type était mort.
D'accord. Et donc, on te faisait déclarer qu'il était mort.
Oui, voilà. Il était mort. Et à ce moment-là, il y avait... un capitaine de la Légion, c'était le deuxième REP, qui était à Djelfa, à côté de Djelfa. Ils avaient un camp, là, beaucoup plus près que de Djelfa que nous. Et donc, il attendait avec une camionnette. Et cette camionnette, c'était un pick-up. Donc, l'arrière du pick-up, c'était pour mettre les chefs félagas. Et généralement... Ce capitaine de Légion, moi je l'appelais Parpin, parce que il avait un jeu, enfin si je puis dire, entre guillemets, c'était que les Parpins, il y avait trois ou quatre Parpins qui se promenaient sur l'arrière du pick-up, qui glissait sur les morceaux de ciment, et donc ils tapaient le Fellaga qui était blessé, évidemment, mais ça, ça l'amusait beaucoup. Donc, il prenait le gars, et puis il l'emmenait à Djelfa, ou plutôt au camp de la Légion, un petit peu au-dessus de Djelfa. Et là, il le torturait pour le faire parler, pour avoir des renseignements.
Alors, donc, toi, tu l'accompagnais à ce moment-là ?
Alors, une fois, je suis descendu. Je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais il m'avait emmené. Et donc, je ne suis pas rentré dans la salle de torture, mais j'ai entendu, par contre. Dans la cour, on entendait les gars qui gueulaient. Donc, il y avait les tortures électriques, hein, avec ce qu'on appelait la gégène. La gégène, ils mettaient ça sur les parties sexuelles des félagas. Et puis, il y avait... Je crois qu'il y avait la baignoire aussi, il allait plonger la tête dans l'eau de la baignoire. Enfin, ils avaient comme ça, ils les brûlaient avec des cigarettes aussi. Enfin, il y avait tout un ensemble de...
Et est-ce que tu savais cela ? Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu ce qui se passait ? Est-ce que tu t'avais entendu parler ?
Alors, avant, je ne le savais pas. Là, c'est en découvrant ça que je me suis rendu compte... de la réalité de la guerre, quoi. Et puis, c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire que dès que les Fellagas, mais pour une raison parfaitement valable, ils voulaient avoir leur pays à eux, alors, ce qui est normal, et bien, à chaque fois que ces gens-là tapaient sur les soldats français, il y avait évidemment, en réponse, les soldats français qui essayaient de se venger. Donc voilà, je l'amenais, ce blessé, là, je les amenais à Djelfa dans l'infirmerie, on les mettait par terre, et puis ça faisait une surcharge de blessés qu'il fallait essayer de soigner rapidement. Alors il y avait le toubib là qui avait des calmants évidemment, et puis bon, je donnais un coup de main. Et une fois, Je suis allé avec ce pilote de Bell, de petit hélico, pour non pas aller chercher les blessés, puisque d'habitude c'était pour aller chercher les blessés, mais là c'était pour se promener. Il m'emmenait me promener. Je me rappelle encore, il avait oublié de fermer le réservoir de kérosène derrière là, et puis il s'en est aperçu rapidement, donc il a refermé le réservoir, et puis on en a décollé, et puis il est allé se promener sur les puits. Il y avait quelques puits quelquefois qui servaient de cachette au Fellaga, et donc lui, son jeu, il avait un fusil qu'on appelait un fusil américain, qui était un fusil assez court, et par la porte il sortait son fusil américain, et puis il regardait, il se posait sur le puits, il regardait dans le puits, comme ça, voir s'il n'y avait pas des félagas qui étaient cachés. Donc...
Et il tirait ?
Il tirait, pas forcément, enfin, s'il voyait qu'il y avait des félagas, mais ça n'est jamais arrivé, moi je ne l'ai jamais vu. Par contre, ce pilote un peu fou, là, il a mal terminé parce que, au bout d'un moment, il a dû faire il faisait ce qu'on appelait du radada. Du radada, c'était voler très bas pour repérer d'éventuelles cachettes. Et là, il a tellement volé bas que l'hélicoptère a touché par terre. Et là, il s'est renversé. L'hélicoptère s'est renversé, a brûlé. Et lui a été gravement brûlé parce qu'il a été brûlé à 35 ou 40%, ce qui est énorme. Et donc, voilà, ça s'est mal passé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce gars-là, parce qu'après, je ne m'en suis pas occupé.
Mais est-ce que les deux exemples que tu donnes, là, des deux militaires, ce pilote et puis l'officier de la Légion, quand tu dis qu'il faisait des jeux, c'était quoi ? C'était, à ton avis, une espèce de sadisme, c'était juste un moyen de s'occuper, c'était qu'ils avaient vraiment ils étaient vraiment persuadés qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec ces gens-là.
Ils étaient conditionnés. Il y avait un conditionnement énorme, surtout à la Légion. Il y avait là-dedans des officiers qui étaient un peu barjots, quoi, qui étaient un peu extrémistes, alors qu'en fait, je pense pas qu'on leur demande d'aide d'aller assez loin, quoi.
Mais merci beaucoup pour cette cinquième séquence sur ta guerre d'Algérie. La prochaine fois, on va parler peut-être de choses un petit peu plus légères, puisqu'on va parler de permission que tu as eue, et tu as pu visiter un petit peu l'Algérie, et aussi quand même de la fin de ta guerre.
Oui.
Voilà, eh bien, merci beaucoup encore, Daniel.
Merci, et puis à la prochaine.